Jean-Rage est lilloise.
Elle est féministe.
Et elle veut vous parler un dimanche par mois. De 14h à 15h. Soyez là.
Jean-Rage n'est pas sage.
Clac. La classe.
Jean-Rage, la claque du dimanche après.
Coucou, vous êtes bien sur Jean-Rage 99 FM sur RCV. On est en retard, on a eu un problème technique. Life is life, la 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 la. Nous sommes aujourd'hui dans une émission en non-mixité bi qui va justement traiter des questions des bisexualités. Pansexualité potentiellement qui sera évoquée aussi. Il y a casse à la technique. Et puis, je suis avec Mathilde.
Ben, coucou Louise, merci de m'avoir invitée.
Alors, ben, avec plaisir, hein, comme ça, voilà, c'est bien d'être en bonne compagnie. On aura aussi un petit témoignage d'une copine qui ne pouvait pas être là, donc de Aline. Et puis, voilà, on va essayer que ça soit un bon petit cru aujourd'hui, une bonne émission sur les questions de bisexualité. Je prends des voix totalement... Bon bref. Mais on va bien sûr commencer par notre fameuse chronique actu. Alors, on a sur l'île au Café Citoyen un festival, le Femstival, qui est du 10 octobre au 27 octobre. Vous pouvez avoir toutes les dates sur Démosphère Lille. Et il y a des choses sur la question des privilèges, sur la grossophobie, etc. etc. avec une grosse teuf le 27 octobre de clôture. Donc, ça va être un chouette festival qui va se produire...
Ok. Sinon, le week-end prochain, donc le 13 et 14 octobre, il y a un week-end de soutien aux camarades grecs en lutte. Ça commence le samedi à 15h avec une projection débat dans la maison des syndicats de la CNT, au 32 rue d'Arras. Après, on poursuit la soirée au CCL avec des concerts. Et le lendemain, à l'univers, pareil, une projection, des discussions.
Super. Eh ben, on s'ennuie pas à Lille. Hein. Troisième petit événement du mois d'octobre, nous aurons la sex party.
Nuit joueuse.
Donc, au sauna du 112 rue de Cambrai à Lille, près de la maison, enfin près de chez moi, voilà. Le dimanche 14 octobre de 21h à 2h du matin. Donc, c'est métro Porte de Valenciennes. Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite et le prix, c'est de 5 à 8 euros. Donc, le lieu sera réservé aux personnes lesbiennes, bi, trans, genderqueer et féministes. Et comme c'est rare et trop rare d'avoir ces lieux-là pour nous, et ben voilà, c'est réservé uniquement à nous dans cette non-mixité. Et donc, la petite présentation, c'est « Alors, nous redonnons vie au féminisme sentimental et nous œuvrons à nous proposer un espace où des sexualités peuvent s'exprimer librement et sans préjugés, que vous connaissiez ou pas, que vous n'ayez pas froid aux yeux ou pas. Il y aura des ateliers, des jeux de rôle sensuels, des performances pendant toute la soirée, des plus intimes aux plus exubérantes. Il n'y aura aucune obligation de passer à l'acte. Il y aura notamment aussi des espaces séparés. Hein, voilà. Ce sera l'occasion de diffuser des créations où le corps, les désirs, les représentations non binaires des sexualités se développent et inspirent.
Sinon, il y a aussi tous les mardis, donc ce n'est pas spécifique au mois d'octobre, hein, mais tous les mardis à 19h30 au CCL, c'est les cours de boxe, donc du SMAF. C'est du sport martial autogéré féministe.
Ouais, cool. Il y a aussi, alors on a juste oublié aussi le festival Homo. C'est pas grave, mais c'était du 20 octobre au 3 novembre. Mathilde qui se met la main devant la bouche, genre au secours. Non, mais c'est pas grave du tout. On s'en est souvenu. Donc, il y a aussi le festival Homo au centre J'en suis, j'y reste, centre LGBT de Lille, 19 rue de Condé. Et donc, du 20 octobre au 3 novembre. Il y a aussi l'île zéro qui tous les mardis soirs, bah, alors c'est en même temps que la boxe, alors il faudra choisir un peu autodéfense rhétorique ou bien boxe, voilà, enfin art martial féministe et autogéré. Donc en gros, c'est l'idée, c'est un peu de théorie et aussi des mises en pratique selon une semaine sur deux autour de la question de l'autodéfense rhétorique, de comment j'arrive à convaincre l'autre ou à démonter sa rhétorique ou voilà, pouvoir l'analyser. C'est hyper sympa, j'y suis allée la fois dernière, c'était plutôt cool. Et puis
tous les troisièmes mercredis du mois, il y a au J'en suis, j'y reste, donc 19 rue de Condé, le groupe Bipan en questionnement qui se réunit. Nous sommes un groupe de discussion pour les personnes bisexuelles, pansexuelles, en questionnement, ayant éventuellement un passé hétéro, homo ou sans étiquette. Nos existences et nos attirances sont fluides. Nous voulons créer un espace de convivialité, d'accueil et de discussion. N'hésite donc pas à venir, que ce soit pour échanger, découvrir le centre ou nous faire part de tes envies et de tes peurs. Nous nous considérons transféministes, un féminisme réaliste et inclusif, en soutien aux personnes qui luttent contre le sexisme, le racisme, le validisme, le classisme, la transphobie, la biphobie, etc.
Oh là là, et c'est vraiment sympa. Et puis, dernier truc sur le soutien, la pétition en soutien aux 5 étoiles.
Oui, tout à fait. Donc là, récemment, il y a le collectif des Olieux qui essaie d'interpeller un peu tout le monde pour avoir du soutien matériel, logistique et des coups de main pour aider à améliorer les conditions de vie qui restent indignes et indécentes dans le squat du 5 étoiles. Et il y a aussi une pétition que l'on peut signer, relayer, partager.
Ok, et eh ben super. Et tout ça sur la page de la CNT, c'est ça?
Oui, la page de la CNT relaie ça. Après, c'est possible aussi de contacter le collectif des Olieux par leur adresse mail qu'on mettra sur le site internet de Genrage. Et puis, important, c'est on peut passer aux 5 étoiles, discuter, rencontrer les jeunes ou les moins jeunes qui sont là.
Ok, super. Et eh ben, c'était notre... Ah oui, et juste, petit truc que j'allais oublier... On a eu mercredi dernier droit aux manifs pour tous et toutes qui sont revenus nous casser les ovaires devant la préfecture en mode YOLO. Alors, il y a Cass qui fait des méga doigts d'honneur à la technique. effectivement, hein, donc il y a eu une contre-manif qui s'est quand même organisée directement. Ils vont un peu dans toutes les villes, vu que là, il y a une nouvelle loi qui devrait peut-être... on espère passer autour de la PMA. Et je pense qu'ils vont revenir en force. Donc là, les copains, les copines et les autres, il va falloir être fort et forte et qu'on aille bien résister. Et pour ça, c'est aussi discuter, exister dans l'espace public, se rendre visible et tout, et aussi discuter de nos questions comme les questions de bisexualité aujourd'hui. Et donc, on va un peu passer notre hymne de Janelle Monáe, Make Me Feel. À tout de suite.
Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way.
So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket.
Right now. laying your body on the shag carpet. Ooh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
Vous êtes bien de retour sur Jean Rage, sur RCV 99FM, tous les premiers dimanches du mois, à 14h, quand on n'a pas de problème technique, jusqu'à 15h. Alors, aujourd'hui, thématique sur les questions de bisexualité. Donc, peut-être que, donc on va voir un peu avec Mathilde, par exemple, pour nous, c'est quoi la bisexualité, par exemple. Je ne sais pas si tu as des...
Oui, alors moi j'ai une définition de Robin Hawkes, qui est une activiste bisexuelle états-unienne, qui me parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de définitions qui sont accolées à bisexualité, pansexualité, et toutes les différentes plurisexualités. Donc celle de Robin Hawkes, je vais essayer de la traduire, c'est... Je m'identifie comme bisexuelle parce que je me reconnais que j'ai en moi la potentialité d'être attirée romantiquement ou sexuellement par des personnes de plus d'un genre ou d'un sexe, pas nécessairement au même moment, pas nécessairement de la même façon et pas nécessairement de la même intensité. Donc c'est vraiment valoriser toutes les attirances, la fluidité qui en découle et qu'on peut s'écouter en fait.
Oui, et que ça, enfin, en fait, l'idée que on n'est pas ancré dans une forme d'attirance, etc., et qu'on n'est pas ancré dans une forme de sexualité, mais qu'il y a quelque chose qui peut changer et qui change avec nous, parce que si on est des êtres qui changeons, enfin voilà, comme tout le monde, quoi. Mais
effectivement, au cours de la vie, c'est des apprentissages, des expériences.
Après, moi, il y a aussi l'idée que pour moi, c'est pas juste ma sexualité. Je pense à être bi, c'est aussi, enfin, une forme, enfin, c'est une identité, quoi. C'est-à-dire que je trouve que dans une société où on est très dans la catégorisation, l'ancrage, le fait de devoir se positionner et où on nous dit toujours il faut choisir, il faut machin, bah, le fait d'être bi pour moi en termes d'identité, c'est aussi de dire mais en fait j'ai pas envie. Et c'est aussi un truc de autant c'est émotionnellement, c'est ma vie affective et sexuelle effectivement en partie, mais ce n'est pas que ça, quoi. C'est aussi plein d'autres choses qui en découlent en fait de cette bisexualité, et notamment rencontrer des personnes comme moi qui peuvent vivre ça et potentiellement, alors je pense qu'on essaye un peu de faire ça à Lille je pense que tu pourras peut-être plus en parler autour de la démarche du collectif, mais de pouvoir créer une communauté, un collectif autour de tout ça.
Oui, pour valoriser, enfin reconnaître qu'on est des individus à part avec une identité propre. Une histoire derrière tout ça qui est souvent gommée, oubliée ou juste effacée.
Ouais, alors paraît-il, il n'y a pas de bisexuels dans l'histoire. J'ai entendu ça récemment. On m'a dit, mais les femmes, elles étaient lesbiennes, elles n'étaient pas bisexuelles.
Ou hétéra et qu'elles avaient quelques aventures.
C'est ça.
Enfin, c'est toujours.
Mais oui, et en fait, on oublie qu'il y a plein de figures historiques qu'on connaît, du genre Marsha P. Johnson, qui était bi, en fait. Et il y a un peu ce truc de l'ordre de... on va mettre les gens dans une case, dans la case qui nous convient, etc. Alors que des grandes figures bi, il y en a, quoi. Et aussi que ça faisait partie de leur identité, que ce n'était pas juste un truc de l'ordre de profiter d'un privilège, en fait, comme on peut souvent entendre, ou quelque chose d'extrêmement binaire, voire transphobe, d'être bi. Donc ouais, moi, je pense que là-dessus, c'est bien aussi de le caler sur... et c'est vrai que j'aime bien la définition que tu donnais... de Robin Hawkes en disant en fait quand on est bi, on n'est pas attiré soit par les hommes, soit par les femmes, et avec cette idée que voilà, nous, enfin voilà, on en a rien, enfin on va pas être attiré par les personnes non binaires, ou même moi j'ai pu entendre que être bi c'est être transphobe, parce que globalement les bi ils sont pas attirés par des personnes trans. Alors bon, j'avoue que j'aime pas trop qu'on parle à ma place, mais en plus si c'est pour dire de la merde, je pense qu'on peut s'abstenir en fait. Globalement, ça m'appartient, et en fait je suis attirée par des personnes et par des identités de genre différentes qui sont exprimées différemment et non, en fait il y a pas un truc du genre c'est uniquement les personnes cisgenres, etc. Enfin on arrête, quoi, à un moment. Je pense que tout ça me semble vraiment extrêmement dur de mettre
c'est toujours vouloir dévaloriser ou même rendre l'identité bisexuelle comme pas valable ou légitime, en disant oui mais non, là c'est problématique, que ce soit dans tes pratiques, dans t'es vécu, dans politiquement qu'est-ce que tu mets derrière. Et en fait à chaque fois c'est, on nous empêche de parler, on nous empêche de créer notre des connexions entre nous, de parler simplement de nous.
Ouais. Mais ce qui, bon voilà, on le verra plus tard, peut en plus avoir des conséquences. Ouais. Et après donc l'idée de bisexualité, donc c'est enfin voilà, ça existe, enfin les termes existent depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment, on se posait toujours la question, les personnes nous posent toujours la question de « mais t'es bi ou pan ?» ou qu'est-ce que... Voilà. Ben, en fait, pour moi, bi et pan, c'est... Enfin, alors, je sais pas, mais parce que moi, je me considère bi, mais quand on me donne la définition de pan, ben, je me dis, mais en fait, c'est la même que la définition de bi pour moi.
C'est des petites subtilités que, après, je pense que chacun, chacune peut... se sentir plus à l'aise avec tel ou tel mot et telle ou telle définition qu'il ou elle a envie de mettre derrière. Ouais. Et que, enfin, dire à la place des personnes bi, par exemple, que c'est prendre en compte le genre, alors que les personnes pensent c'est plutôt prendre en compte les personnes indépendamment du genre. Enfin, non, moi je me sens bisexuelle et pourtant je prends pas forcément en compte le genre des personnes que je fréquente.
Oui.
Et c'est toujours opposé. Bi, pan,
ouais.
Alors qu'en fait, ça a beaucoup de similarités, de problématiques communes.
C'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc de l'ordre de diviser, quoi. Diviser pour pas créer de communauté. Et effectivement, moi, je trouve que, enfin, ça, dans mon cheminement pour pouvoir dire que j'étais bi, il y avait vraiment ce truc un peu de aussi, comment dire. Trouver d'autres personnes comme moi, et en fait j'en trouvais pas, et à chaque fois c'était le truc du genre si on va dans un lieu LGBT, même s'il y a le B globalement, bon voilà, c'est pas toujours évident, parce que tu te dis est-ce que je suis légitime en ce moment, peut-être qu'en ce moment ma relation en tout cas elle est vue extérieurement par les personnes comme étant hétérosexuelle, sauf que je ne suis pas hétérosexuelle. Est-ce que je suis légitime à aller à cet endroit, à pouvoir militer sur ces questions-là? Et puis, les gens disaient pas qu'elles, enfin les personnes disaient pas ou peu qu'elles étaient bi. Et en fait, moi c'est vrai que c'est très récent de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir connecter et de pouvoir créer du lien autour de tout ça, parce que il y a vraiment beaucoup de divisions. Et moi, ce truc de bi-pan, pour moi, il y avait un truc de l'ordre de... on divise encore parce que sinon, ça va être trop compliqué. Et en même temps, je trouve que ça marche pas trop, en tout cas dernièrement, parce que moi, je vois... pour moi, je considère qu'on a les mêmes luttes et qu'on vit les mêmes oppressions, en fait, à ce niveau-là.
Qu'on a des parcours similaires. Je sais que je préfère le mot bi parce que c'est le premier dans lequel je me suis reconnue et qui m'a fait énormément de bien de poser un mot et de me dire qu'en fait, tout ce que je vivais avant... Tout le fait que je me questionnais sur moi, est-ce que j'avais le droit de ressentir ça? Mais non, il fallait pas tout le monde me rabrouait. Et en fait, je me suis dit, ok, en fait, j'ai juste, je peux juste assumer ce que je ressens. Et en fait, il y a plein de gens autour de moi, c'est la même chose.
Mmh. Exactement. Mmh. Et je trouve que là-dessus, effectivement, sur ces discussions-là, moi, il y a pu avoir des... Enfin, voilà, je pense qu'il y a eu aussi des personnes pan avec qui j'ai reconnu mon parcours et avec qui on a pu vraiment poser ces mots-là. Moi, effectivement, c'est aussi que bi, c'est le premier mot qui a été posé historiquement et que je trouve que pan, ça a été pour répondre encore aux critiques, aux machins, aux accusations de binarité. Et en fait, voilà, ça me saoulait de rentrer dans ce... Enfin, voilà, mais c'est mon point de vue, c'est mon vécu et c'est aussi, effectivement, l'écho que ça fait en moi en termes d'affirmation de moi et d'autodétermination. En fait, c'était quelque chose d'important. Et puis, ouais, après, voilà, je trouve que c'est aussi plein de choses qui m'ont fait avancer, quoi.
Ouais, et... absolument.
Et peut-être que pour poursuivre, on va aussi parler notamment des représentations des meufs bi. Bon, voilà, parce que je pense que c'est aussi ça qui est important. On s'est calé une sorte de... Si vous voyez ça, le papier du genre, on s'est calé à plein de... Ouais, c'est ça, un petit programme des méga objectifs. Donc voilà, là, on avait... Donc Mathilde avait prévu un truc que je trouvais hyper cool, des représentations des meufs bi, donc dans les, les séries.
Il n'y a pas que des meufs, parce qu'il y a aussi un personnage masculin. Voilà.
Ouais.
Donc plutôt des séries assez récentes, d'ailleurs. On verra un peu la différence de traitement de ces personnages-là. Alors déjà, je voudrais parler de Gypsy, une série Netflix. Donc, quand j'ai appris que Naomi Watts jouait dans une série et qu'elle a incarné une meuf bi, j'étais là. Mais bon, j'ai quand même déchanté bien vite, parce que son personnage endosse tous les stéréotypes attribués aux femmes bisexuelles. Donc, c'est l'histoire d'une psy qui se découvre un jour un vif penchant pour une personne du même genre et qui va entamer une double vie. La liaison d'une part et sa petite vie de famille confortable avec son hétéro de mari d'autre part. Donc en gros, bah, le personnage principal compile tous les vices prêtés aux bi, infidèle, menteuse, égocentrique, manipulatrice, dangereuse, puisqu'elle interfère de façon hyper glauque dans la vie de ses patients. Donc la meuf, elle a ni éthique professionnelle, ni éthique personnelle. Donc, vraiment, ce personnage est aussi détestable que la série n'est insipide.
Bon, au moins, tu nous as déjà...
Je vous épargne hein, une perte de temps dans votre vie. Et le pire, c'est que c'est même pas novateur, hein, c'est juste lassant.
Ouais, et vraiment le truc encore de, en plus, la meuf qui préfère sa vitrine hétéra, et comme ça, elle est bien confortable, elle subit aucune oppression sur le fait d'être avec une personne du même genre qu'elle, quoi.
C'est ça, c'est toujours le
passing. Ah, mais ça, on les connaît, hein, les biens, ils sont tous comme ça, hein, on nous dit tout le temps ça, moi. De toute façon, moi, j'ai des copines, elles couchent plus avec des bis parce qu'elles savent qu'elles vont finir toujours avec un mec.
Bah, évidemment, c'est le risque, hein, de se faire briser le corps.
Je croyais que c'était le risque de toute relation, mais c'est pas grave.
Alors, sinon, il y a aussi une autre série, toujours sur Netflix, hein, je ne sais pas si je peux dire le mot, mais bon. Il y a The Mist, donc une série un peu fantastique, un peu horreur. Franchement, pas de grande qualité, mais j'ai voulu l'ingurgiter parce que dès le début, on y découvre un personnage bi, donc un jeune ado queer, ouvertement bi. Sauf que, bah, à la fin, pareil, on déchante, on aurait pu bénéficier d'un personnage positif pour une fois, mais non, non, non. Le cool kid queer se révèle être un violeur qui tente d'assigner des gens, puisque oui, visiblement, il souffre de spécificités psychiatriques. Donc en gros, c'est l'image parfaite du « j'ouvre bien grand les guillemets hein, » du cinglé de service. Super. Voilà.
Génial.
Sinon, il y a aussi dans The Good Wife, qui est un petit peu plus connue quand même. C'est une série que j'aime bien. Si on nommait le dernier épisode, hein, Louise.
Oui, oui, on en a déjà reparlé. Bon, voilà.
Cet épisode qui ébranle à jamais l'estime que je portais à cette série. Bon, même si elle est quand même assez imparfaite. Mais dedans, il y a un charmant personnage qui prend place dans pas mal de saisons. C'est Kalinda Sharma, une enquêtrice indépendante qui œuvre au sein d'une grosse firme d'avocates. Donc, Kalinda, je ne vais pas mentir, je l'apprécie pas mal quand même.
Oui.
Mais ce personnage reste un peu problématique parce qu'une fois encore, hein, il compile pas mal de stéréotypes sur les meufs bi, parce qu'elle a horreur de l'engagement, tant professionnellement que dans ses relations amoureuses. Elle est hyper mystérieuse, manipulatrice. Elle use quasi toujours de ses charmes pour arriver à ses fins. Donc en gros, c'est une croqueuse d'hommes et de femmes. Et cette hypersexualisation est d'autant plus problématique que c'est l'un des seuls personnages racisés centraux de la série. Mais heureusement, on a quand même quelques perles qui offrent des représentations positives de la bisexualité féminine.
Enfin !
Qui permettent pour une fois de se reconnaître dans quelqu'une qui n'est pas un ou une criminelle sexuelle, ni une manipulatrice pathologique, ni une meuf hypersexualisée.
Ni une traîtresse.
Voilà.
C'est ça. Super !
Donc on peut déjà dire que la bisexualité féminine est présente dans quelques séries teenagers. Genre les frères Scott, même si c'est un peu vieux quand même.
Qui dans les frères Scott?
Une voisine.
Ah d'accord, je savais pas. D'accord, je me souviens
c'est
pas.
C'est un peu remonté à mes vieux souvenirs. Uh-huh. Mais, Ou récemment dans Pretty Little Liars.
Oui.
Mais puisque c'est pas des séries que je trouve hyper intéressantes, je vais plutôt me centrer sur des éléments plutôt cool. Donc dans Brooklyn Nine-Nine, qui a une bonne réputation, il y a Rosa Diaz qui fait son coming out bi à l'épisode 99, même si dès le départ, on peut déjà penser qu'elle n'est pas hétérosexuelle. En dehors du fait que ce soit une flic, c'est quand même un personnage dans lequel on peut se reconnaître. Bon déjà, elle est ultra canon, elle est badass et elle est hyper touchante. C'est d'ailleurs une série qui repose énormément sur un floutage des rôles genrés, parce que les différents personnages disposent de caractéristiques supposées relevant de l'autre genre, comme l'émotivité, la compétitivité, la douceur ou la force. Et c'est tout à fait intégré dans les scénarios, jamais discuté ou ridiculisé. Donc si on n'est pas contre l'idée de se mater une série entière sur un commissariat, parce que c'est vrai que les keufs réels sont déjà assez omniprésents dans nos vies, bah, c'est plutôt une chouette série à s'enfiler. Et enfin... le meilleur personnage bi de tous les temps pour moi, c'est... Bon, c'est vrai que c'est pas objectif parce que je me suis pas mal identifiée à ce personnage. C'est Stella Gibson, interprétée par Gillian Anderson The Fall. Mais non, tu peux exprimer tout ce que tu sens pour elle.
C'est Gillian Anderson, quoi. Ouais. C'est fou.
Donc The Fall, c'est une série policière britanno-irlandaise.
Alors ouais, elle est flic quand même.
Oui, je le note aussi. Hormis le fait qu'encore une fois, ce soit une keuf, c'est quand même une meuf hyper badass qui a une sexualité épanouie avec des hommes comme des femmes, sans honte, et qui recadre de façon magistrale tous les sexistes. Donc, hello spoilers, quasi tous les personnages masculins de la série. Il s'agit pour moi d'une série hyper féministe, qui démontre l'emprise du patriarcat sur nos vies de meufs et l'intégration des comportements misogynes dans la mode de pensée aussi chez les mecs. Donc je trouve que cette série, elle prend vraiment position pour le féminisme, elle dénonce les violences sexuelles, carrément, le slut-shaming, ouais, le victim-blaming, l'emprise et la réalité des femmes aujourd'hui, donc celle de l'expérience des violences, de la peur, des traumas, de la réification. Bon, c'est une série assez dure parce qu'on suit l'enquête sur un tueur en série de femmes. Mais ça fait quand même pas mal de bien à regarder. Donc quelque chose sans lever les yeux au ciel, toutes les 30 secondes. Et qui montre des femmes victimes, des femmes fortes, des femmes en résilience, des femmes qui se battent, des femmes qui pleurent, qui s'entraident. Enfin bref, des meufs qui niquent le patriarcat, quoi.
Ouais ! Non, carrément. Et vraiment, je trouve qu'il y a aussi cette idée des en tout cas, de montrer toutes les réalités. Et je pense que notamment sur ce tueur en série, on montre aussi le parcours de sa femme, ouais, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant à un moment de aussi poser cette question-là dans ce sens-là. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une finesse qu'on a peu, en fait. Ouais. Et vraiment, moi, j'avais kiffé.
C'est pas manichéen avec les méchants d'un côté.
Les gentils de l'autre.
Ouais, puis forcément, si sa femme, elle était au courant. Enfin, c'est une manipulatrice aussi. Et non, bah non.
Et en fait, ouais, et de voir elle, comment elle mène son parcours, comment elle change les choses. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment surkiffé aussi. Alors moi, j'avoue que quand on en avait parlé, il y a deux personnages qui me sont venus en tête. C'était dans Crazy Ex-Girlfriend, qui quand même a deux personnages bi. Alors, il y a Daryl, bien sûr, dont on va entendre une petite chanson par la suite, qui explique un peu, voilà, lui, sa bisexualité et comment... voilà, il se découvre bisexuel. Et puis, il y a Valentina. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool. C'est que donc Valentina... Alors, désolé, hein, y a plein de spoils, mais... Donc, elle est avec Josh. Et en fait, après, elle est avec une meuf avec qui elle monte une entreprise et tout. Et en fait, c'est même pas un sujet, c'est même pas un débat. C'est juste, bon, voilà, et elle est bi, et c'est cool. Et en fait, personne ne dit rien. Et je trouvais ça trop cool, cette idée de... Ça pose pas de questions, quoi. Et je trouvais ça génial. Et donc, on va faire une petite pause. On va vous laisser avec Daryl qui chante Getting By.
Getting by, I'm getting by. Oh yeah, I'm letting my bi flag fly. Not gonna hide it, not gonna lie. I'm a bi kind of guy. There's no reason to be shy. My oh my, it's a fact I can't deny. I'm bi, bi, bi until the day I die. Now some may say, oh, you're just gay. Why don't you just go gay all the way? But that's not it, 'cause bi's legit. Whether you're a he or a she, we might be a perfect fit. And one more thing, I tell you what, being bi does not imply that you're a player or a slut. Sure, I like sex.
Please make him stop.
But I'm no hoe, I take things slow until I feel at ease. So if you ask me how I'm doing, I'm feeling peppy, sprightly, spry. If not a phase, I'm not confused, not indecisive. I don't have the gotta choose blues. I don't care if you wear high heels or a tie. You might just catch my eye because I'm definitely bi.
Vous êtes de retour sur Genrage, 99 FM sur RCV. Et aujourd'hui, émission en non-mixité bi sur la bisexualité. Et donc, on va maintenant aborder le nerf du problème. C'est la biphobie existe-t-elle ? Alors, notamment parce que on a souvent eu ce truc de dire finalement les bis, ils souffrent pas de biphobie, ils souffrent soit de gayphobie, soit de lesbophobie, ou bien ou de sexisme en fait, et peut-être les deux en même temps, mais que globalement les bis ils vivent pas de biphobie. Et en fait, on n'est pas d'accord.
Bah non, enfin.
Enfin, voyons donc. Et alors, pour commencer là-dessus, je pense qu'on va lancer un petit témoignage de Aline. Et puis après, nous, on reprendra aussi pour vous parler des chiffres, des choses comme ça sur la question bi.
C'était il y a 9 ans. J'étais pas du tout outée en tant que personne bisexuelle. À ce moment-là, je pense que moi, j'avais de toute façon de gros doutes. Sur ma bisexualité et du coup voilà, je j'osais pas m'affirmer, m'outer en tant que personne bi, donc voilà, il y avait de temps en temps des personnes qui me disaient, des proches qui me disaient mais si, mais toi t'es bi de toute façon, d'un revers de main souvent je j'écartais leurs paroles en disant mais non, me mets pas dans une case et tout, voilà. Donc je m'en sortais plutôt pas mal à ce niveau là là-dessus, enfin en tout cas je me débrouillais comme ça. Et puis à ce moment là c'était pas important pour moi de me définir comme personne bi. Mais je crois que la première fois que j'ai vécu de la biphobie, je pense qu'en fait c'est la première fois où je me suis dit « Ah, en fait, si ça me fait aussi mal, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui me touche là-dedans. » C'est une amie qui une amie que je venais de rencontrer, en tout cas on faisait un peu connaissance et on était amis depuis déjà quelques semaines. Et donc cette amie était lesbienne et un jour elle m'a dit de toute façon les personnes bi c'est des personnes qui savent pas choisir, qui savent pas se définir, qui savent pas se positionner en gros, et puis c'est bien facile de se définir bi. Comme ça, ça permet de ramener son copain ou sa copine et de passer pour hétéro dans sa famille et puis de s'amuser à côté. Voilà, en gros, de vivre sa vraie vie, entre guillemets, sa vraie sexualité, entre guillemets, dans l'intimité. Alors, elle parlait de s'amuser et d'être fun et d'être un peu aussi dans l'air du temps. Et donc ça, tout ça, ces termes-là, ça m'avait interpellée. Et parce que cette personne, en fait, voilà, je conserve un respect pour cette copine, hein, mais cette personne, en fait, me disait qu'elle avait tellement de mal elle avait eu tellement de mal à présenter sa copine à sa famille et que ça n'était pas du tout bien passé dans les premiers temps. Ce qui est aussi entendable, en fait, hein, de toute façon, elle a vécu de la lesbophobie dans sa famille. Et voilà, donc par rapport à cette lesbophobie qu'elle a vécue dans sa famille, la difficulté qu'elle a eue à présenter sa copine, à venir dans les fêtes de famille avec sa copine, et bah voilà, quelque part je pense qu'elle se disait non mais c'est trop facile en fait du coup de se définir comme bi et de dire voilà je suis bi et en fait je me out en tant que bi quand ça me plaît quoi. Voilà, elle en parlait comme ça. Et ça m'avait un peu choquée, ça m'avait un peu... je crois que j'avais pas trop voulu avouer que ça m'avait blessée, mais en fait ça m'avait blessée. et du coup, voilà, après aussi, cette même personne parlait de pratiques sexuelles et parlait d'une connaissance qu'on avait en commun. Donc, toujours une personne qui se disait bi, qui se définissait comme bi, et donc de cette personne qui se définissait comme bi, elle disait oui mais en fait elle se définit comme bi mais bon elle dit qu'elle a déjà couché avec des filles mais bon en gros ouais je demande à voir. Ouais. Enfin est-ce que du coup, enfin voilà, c'était toute une foultitude de questions du coup qui venaient à moi parce que à ce moment-là, par rapport à ces questions-là, parce que voilà, je me disais est-ce qu'il faut nécessairement. Pour se définir comme personne bi ou même pas comme personne lesbienne, est-ce qu'il faut nécessairement avoir déjà eu une sexualité avec une meuf? Et puis c'est quoi en fait avoir eu une sexualité avec une meuf? Comme moi je questionnais aussi énormément, je commençais beaucoup à questionner toutes les questions de sexualité, c'est-à-dire ben, en fait à partir de quand on a une sexualité avec une personne? Est-ce que c'est pas juste partager de l'intimité? Est-ce que ça se limite aux bisous? Ça peut être validé si c'est des bisous? Est-ce que c'est validé si c'est des sentiments? S'il n'y a pas eu de sexualité partagée, tout ça. Donc voilà, enfin c'était un peu des paroles qui m'avaient touchée, qui m'avaient remuée. Et à partir de là, je m'étais dit, bah en fait, si elle dit ça, c'est que je dois certainement pas du tout être bi, parce que j'ai peut-être pas suffisamment été amoureuse de filles. Ce que j'ai ressenti, c'est peut-être pas vraiment de l'amour pour des filles. Et puis, les rapports sexuels que j'ai eus avec des filles, c'est peut-être pas tout à fait validé, parce que peut-être pas qu'on est allé au bout et tout ça. Enfin, c'était très questionnant et en fait, du coup, ça me mettait hyper mal à l'aise parce que de toute façon, ça parlait d'une intimité qui était trop... ça me gênait vachement en fait qu'on puisse interroger la sexualité d'une personne par rapport à ce qu'elle avait fait dans l'intimité avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc je sentais bien hein, que ça me dérangeait, mais bon, je préférais me dire, je pense que ça m'arrangeait aussi et ça me rassurait un peu de me dire c'est tout, alors c'est que je suis pas bi et que de toute façon apparemment les bi n'existent pas. Voilà. Donc voilà, pour ma part, le premier souvenir que j'ai de biphobie, et donc ça venait d'une amie, et j'y repense encore beaucoup en fait, et je pense que ça a vraiment longtemps marqué le fait que je ne me sois pas outée avant longtemps. Enfin, que je ne me sois pas avouée rien qu'à moi-même, que en fait, bah oui, je me définissais comme bi. Et...
J'enrage, dérange, désape, décape, le sexisme et l'hétéropatriarcat.
Ouais, alors, bah, moi j'avoue que c'était cool aussi de faire passer une autre voix que la nôtre, et aussi ça nous a permis, c'est drôle, avec Mathilde, on était là à prendre des notes, à dire ouais, faut dire ça. Et en fait, moi, alors, effectivement, moi, en tout cas, cet été, dans le milieu militant, moi, j'ai pu vivre un moment où on m'a dit que la biphobie n'existait pas et où, clairement, on vivait juste de la lesbophobie et du sexisme et qu'il fallait arrêter de créer des oppressions en plus, que globalement, c'était un peu l'idée de libéraliser nos luttes. Donc, finalement, un peu comme si... Ouais, donc voilà. Dans le sens où, genre, c'est nous qui phagocytons les luttes et qui faisons qu'on n'est pas bien les uns avec les autres. Alors, c'était hyper dur à entendre. Et en fait, moi, déjà, je pense que le premier truc, c'est on n'est pas dans une compétition des oppressions. Et je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que si la biphobie existe, et effectivement elle existe quand on voit les chiffres, notamment, on en parlait tout à l'heure avec Mathilde, il y a un plus gros risque de cancer, un plus gros risque d'IST, un plus gros risque de tentative de suicide, un plus gros risque de... je sais plus, il y avait encore d'autres trucs.
Il y a plus de risques d'être victime d'agression et de violences sexuelles. Plus gros taux de discrimination, plus grand taux de pauvreté, plus grand risque de problèmes de santé mentale et physique. Mais en fait, quand je dis plus grand risque, les chiffres, c'est quand même assez énorme, parce qu'il y a 61% des personnes bi qui ont vécu des violences sexuelles dans leur vie. Pour les meufs bi, notamment, c'est 46% de victimes de viol. Donc, par rapport aux lesbiennes, c'est 13%, et aux hétéras, c'est 17%. Donc, il y a un énorme...
Tu veux dire que c'était une sur deux, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça.
D'accord.
Pour le cancer, les maladies cardiaques et tout, c'est lié aussi au fait que les personnes bi, elles sont plus grandes consommatrices de tabac et de drogue. Il y a un quart des personnes bi qui vit avec un trouble post-traumatique.
Ouais, en même temps, sur le lien avec les violences sexuelles, de toute façon, il est clair. Et aussi sur tout ce qui est dépression.
Anxiété,
ouais, ça, on avait vu que c'était des chiffres aussi qui étaient plus forts. Et l'idée, c'est pas de dire ah, mais les autres ils ont rien, c'est juste de dire à un moment de comprendre qu'être bi, en fait, c'est pas quelque chose du genre je suis trop contente, je peux sortir avec des mecs et être hétéra le jour, et puis je peux m'envoyer en l'air avec des personnes d'autres identités de genre la nuit. C'est que clairement, c'est quelque chose qui, dans nos vies, la complexifie. C'est à dire que moi, je sais que j'ai un univers de travail qui est hyper sécurisant, c'est-à-dire que j'ai commencé à bosser, je sortais d'une relation avec un homme cis hétéro, et que aujourd'hui je suis avec une autre personne bi, et une personne d'identité de genre féminine. Et en fait, globalement, mon taf, ils ne se sont pas posés de questions parce que je travaille dans la question de santé sexuelle. Mais vous avez un travail à peu près, on va dire entre guillemets, de monsieur ou madame tout le monde. Vous travaillez sur une plateforme téléphonique ou un truc comme ça. Si un jour vous dites que vous êtes avec Claude, plutôt Jean, et que l'autre jour vous dites que vous êtes avec Muriel, globalement, et ensuite que vous revenez avec un mec qui s'appelle Mathieu, globalement, les gens, ils vont se dire oh là là, déjà
mais
vous avez une vie.
Salope.
Ouais, c'est ça. D'avoir une vie sexuelle débridée. L'autre chose, c'est aussi de dire qu'à chaque fois, on doit faire un coming out avec des petites phrases hyper sympas comme « Ah, mais t'es redevenue hétérosexuelle
!» Ah, c'est fini, cette phase-là ?«
Ah ouais, ah non, mais c'était juste une période, je comprends. Non, mais c'est parce que t'avais pas rencontré le bon. » Donc voilà, des choses comme ça qui sont quand même hyper violente, parce qu'en fait notre identité, elle est jamais prise en compte, et qu'on nous associe une identité qui est toujours liée avec qui on baise. Mais en fait, globalement, moi, si je suis bi avec n'importe quelle personne. Et
en fait, ton identité, elle varie pas en fonction des fluides de tes partenaires.
Non. Et puis, oui. C'est ça, c'est que moi j'ai le droit d'avoir une identité sans que mes partenaires et soient en jeu. En fait.
Et c'est à chaque fois, c'est toi en tant que bi, tu t'es jamais toi à part entière, mais t'es toujours en comparaison, enfin par rapport à la personne que tu fréquentes. Et...
Ouais.
C'est relou. Mais
comme s'il n'y avait pas d'autodétermination à des personnes bi et qu'en fait elles n'avaient pas la possibilité de vivre hors d'un cadre qui est déjà fixé tout à fait. Et tout ça, bien sûr, avec l'idée, alors dans le discours, enfin dans le témoignage d'Aline, je trouvais qu'on entendait beaucoup la question de la validation. Alors, par qui on est validé déjà Alors, quand on est validé par les hétéros, c'est-à-dire, je pense que pour une meuf bi, si t'as fait un bisou à une autre meuf, tu peux être vu comme bi par tous les hétéros parce que, ils sont vite en mode « Ah ouais, non, une fille qui fait un bisou à une autre fille, elle est bi. » Et puis, si tu vas dans le milieu plutôt LGBT, pour prouver ça, faut que t'aies au moins eu plusieurs partenaires. Ouais.
Faut que t'aies tout ton CV sexuel mis sur ton, sur ton manteau, puis avec des statistiques en fonction des genres de tes partenaires. Parce
c'est ça. Faut bien que ça soit du 50-50, faut pas que tu sois une traître à la cause non plus, hein. Et en fait il y a toujours ce truc de on est validé par les autres, on n'a pas d'autodétermination possible, génial. Et ben voilà, on se sent un peu réifié dans tout ça. Et
parce que les propos biphobes qui ressortent souvent, enfin comme cet été aux UEH, donc des rencontres queer féministe autogéré, il y a eu un texte qui était formidable de biphobie en qui s'introduisait comme la biphobie n'existe pas, c'est comme le sexisme inversé ou l'hétérophobie. Donc tout de suite tu te dis ok, sympa, il y a des gens avec qui j'ai passé peut-être une semaine sans me rendre compte qu'en fait visiblement ils ne comptaient pas parmi des pairs ou des personnes en qui on pouvait avoir confiance. Et donc c'est non seulement invisibiliser l'identité bisexuelle, mais du coup c'est aussi nier totalement les violences biphobes qu'on retrouve dans les états de santé physiques et mentaux et qui ont un impact direct sur nos vies. Mais en fait c'est pas quelque chose qui est en arrière-fond, mais c'est quelque chose qui peut être porté au quotidien 7 jours sur 7. Cette anxiété, les troubles de l'humeur, les stress post-traumatique, hein, c'est quelque chose... handicapant parfois.
Ouais, et puis je trouve qu'il y a aussi, en tout cas, j'ai pas mal parlé de l'idée de communauté, mais c'est, la communauté bi, elle existait, mais je pense qu'elle était très invisibilisée, effectivement. Et le fait qu'il n'y ait pas de communauté, qu'il n'y ait pas quelque chose de base, de réassurance quotidienne.
De ressourçant,
effectivement. Alors,
on se sent écouté et reconnu, soutenu.
C'est ça, et où on peut parler de toutes les relations qu'on a pu avoir, c'est-à-dire que moi il y a eu un moment où j'avais l'impression que quand j'étais dans les lieux LGBT je pouvais parler des personnes des personnes avec un autre genre que celui de maxis hétéro dont je pouvais parler de tout ça, mais je pouvais pas parler des problématiques avec des maxis hétéro. Et quand j'étais avec des personnes hétéra, globalement, alors sinon ça devenait un peu un peu malsain et voyeuriste quand on voulait savoir mes histoires avec d'autres personnes, mais globalement je pouvais parler que de mes histoires avec des maxis hétéro. Et en fait l'idée de tout le temps être d'être éparse, et je trouve que c'est hyper complexe de pas pouvoir à un moment parler des deux, parce que moi je me souviens j'avais des réflexions de personnes qui disait ah non mais les personnes bi elles nous font trop chier à venir parler de leurs problématiques de violence avec les mecs hétéros. Sauf qu'en fait ça voulait pas, enfin les problématiques de violence elles sont pas juste avec des mecs hétéros, elles sont aussi dans nos milieux, on le sait, dans nos relations avec des personnes du même genre, etc.
Et puis, du coup c'est faire en sorte que les personnes bi qui sont en couple avec des, par exemple des mecs cis hétéros qui peuvent avoir des comportements violents, du coup c'est ne te plains pas parce que tu l'as cherché, alors que c'est hyper culpabilisant.
Effectivement, et puis et les lieux où tu vas, c'est-à-dire que si à un moment, je me disais, mais si tu as été victime de violence, effectivement, peut-être dans une relation hétéra, mais que dans ton passé, dans une relation dans une relation avec une personne, donc dans une relation dite hétéra d'ailleurs, en plus vue comme hétéra, mais que tu as pu avoir des ces mêmes problématiques avec une personne du même genre que toi, en fait, moi, ça me mettrait hyper. Parfois, je me dis, je ne sais pas comment ça serait reçu par la personne en face de moi, de pouvoir dire, ça m'est aussi arrivé quand j'étais avec mon ex qui était une meuf, nanana. Parce que dans le regard des gens, j'ai l'impression qu'ils vont me dire, ah, mais vous êtes bi quand même, vous sécuriser votre partenaire, quoi. Ouais. C'est normal qu'il soit un peu tendu, un peu violent, un peu jaloux, parce que vous savez, avec les personnes bi, on sait jamais, on sait jamais quoi.
Sur quel pied danser.
Sur quel pied danser. Puis c'est des personnes infidèles. C'est ça, c'est des personnes infidèles, deux fois plus de chances de choper le samedi soir, ouais, comme dit la brochure que vous pouvez trouver sur Info Kiosque, faite par Félix et Popo, hein, big up. Ouais. Voilà.
Ouais.
Et en fait, globalement, moi, je trouve qu'il y a, il y a vraiment ce truc-là de, d'avoir l'impression, effectivement, qu'on le cherche. Et puis alors ça, c'est au-delà des, aussi des petits trucs dans la communauté où les lesbiennes... Enfin, en tout cas, moi, ce que je connais des, de choses que j'ai pu entendre par des personnes lesbiennes ou gouines, c'était de dire, non, on sort pas avec des billes parce qu'elles vont finir avec... Elles vont retourner avec leur mec. Bon, voilà. Et...
Hier, je reparlais avec une copine sur les sites de rencontres, notamment. Enfin, cet été, on parlait avec des bi qu'on avait du mal à rencontrer des lesbiennes parce qu'en fait, tout de suite, c'est pas possible. Et du coup, sur les sites de rencontres, qu'est-ce qu'on peut se prendre de réflexion, genre, enfin, de devoir se justifier. Donc, ah oui, d'accord. Donc, est-ce que tu couches avec des mecs en ce moment ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Oui, ben, savoir si on doit se protéger, en fait, si potentiellement. Donc, tu fais d'accord. Donc là, tu m'assignes forcément avec... peut-être des IST, sans prendre en compte qu'en fait, deux meufs ensemble peuvent avoir également des IST et que la question de la protection devrait se poser...
Automatiquement, voilà. Clamédia, dans les communautés... Ouais. Non, mais dans les communautés lesbiennes, excusez-moi, hein, mais on sait que c'est une des maladies qui est la plus répandue, quoi. Enfin, à un moment, je pense qu'effectivement, ce truc de « je veux pas coucher avec des billes parce qu'elles ont des IST ». Et puis même, sur des profils, il y a des personnes qui disent « pas de billes », en fait. Clairement, en fait.
Hyper excluant.
Mais à part ça, la biphobie n'existe pas.
Ouais, c'est ça.
Et je trouvais aussi, moi, j'avais entendu parler de ce truc aux UEH, aussi ce truc de bah, « gracieusement, on vous invite dans la communauté, on vous accepte, alors que c'est trans-PD Gwyn, ouais, et c'est pas trans-PD Bigwyn. Et en fait, à un moment, on a la grande gentillesse de faire que vous puissiez venir. Et en fait, il y a un truc du genre, ça va pas, en fait. Ça va pas. Et en fait, c'est ça, là aussi, la problématique, c'est qu'on a pas de lieu parce que les violences, elles viennent de tous les côtés. Et ça, c'est hyper, hyper compliqué. Alors, on est sur la fin de l'émission. On n'a pas trop eu le temps de tout faire. On va passer Pitches pour conclure. Juste, la prochaine émission sera sur les questions d'autodéfense, d'arts martiaux, de tout ça, et des meufs qui vont pratiquer ces types d'autodéfense. Peut-être qu'on retrouvera certaines de nos invités actuelles, je ne sais pas. Et puis, là, on vous laisse avec... Pitches, I, you, she.
Together, come on, baby, let's go. I, you. baby, let's go. Come on, baby, let's go.